Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto le dimanche de 11h à midi sur Radio Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au sommaire, au menu de cette émission, nous avons rendez-vous avec Guy Pilarczyk pour l'actu de la moto tout-terrain. Guy, bonjour.
Bonjour Abich, bonjour tout le monde.
Alors aujourd'hui tu vas nous emmener au soleil, parce que ça nous manque quand même un peu.
Alors c'est au choix, soit l'Amérique du Sud ou l'Afrique.
Ah voilà, c'est ça, sur deux continents alors, on va deux partir continents. Soit Amérique du Sud, alors en Argentine, parce qu'on va parler du Dakar avec notre invité au téléphone.
Oui, qui sera Eric Croquelois, et l'Africa Race avec Jérôme Elena, un habitué d'ailleurs des studios. Et nous terminerons aussi par Lille avec le Nitro Circus Live qui se déroulera d'ici deux jours.
Très bien. Notre invité, c'est Nicolas Poiret. Nicolas, bonjour.
Bonjour, Lamiche.
Alors, on a visité l'édition du salon 2013. Donc,
voilà,
en début
lundi,
de semaine,
on
se baladait dans les allées.
Voilà.
Et donc, qu'est-ce qu'on peut retirer un peu de ce salon? On va en parler.
On va parler de différentes tendances. C'est vrai que, a priori, on voit de plus en plus de scooters, plus en plus de quads.
Pour toi, le salon vient. C'est le salon de la moto, ça devient plus du track, du quad, et pour finir, la moto.
On fait le compte du nombre de stands, il y a autant de stands moto que de stands d'autres trucs, quoi.
Des trucs plus ou moins qu'un moteur et des roues. Déduction un peu, au final, le ressenti un peu du salon, un peu.
C'est la crise.
Toujours des belles femmes quand même.
Voilà. Ah oui. Bon, on va quand même dire aux éditeurs, puisqu'on va parler du salon, d'aller en même temps. Bah, on va parcourir donc les allées, mais c'est pas très radiophonique.
Mais une idée,
on peut aller sur le site KAC.
On va sur le forum.
Allez-y tout de suite là, oui, parce que tu nous as fait un super reportage photo.
Sur le forum, dans la rubrique on y était. Et puis, on trouve la rubrique du salon.
Voilà. Et on dit bonjour à Laurent Rogier, qui est notre programmateur de ce fantastique programme musical.
To you guy, well now Eric's got a baby. Yeah, she's 7 years old. Well now Eric's got a baby. Yeah, she's 7 years old. Well, he's in for dirty diapers. Boyfriend still to come. Good luck to you, Eric. I got a class when I have one. Well now Eric's got a baby. Yeah, she's 7 years old. Well, he's giving the dirty divers
La moto, c'est tous les dimanches, c'est dès 11h30, c'est sur Campus Lille, 106,6.
En effet, et aujourd'hui, on va parler des rallyes africains et américains du Sud. Et nous avons en antenne notre ami Jérôme Elena. Bonjour Jérôme.
Bonjour Guy, bonjour à tous, bonjour Amish.
Jérôme est un grand habitué des studios, parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient. Alors maintenant, Jérôme, tu es dans le sud de la France.
Oui, exactement. En fait, je suis parti donc d'Hazebrouck pour m'installer dans le sud, à côté de Draguignan. Et donc après avoir fait 30 ans de moto japonaise et européenne, je suis pour les motos américaines. Donc je suis chez Harley Davidson dans le sud, à Roquebrune.
Tu nous as lâché là.
En effet, ouais.
Depuis un ch'ti alors, hein.
Et Roquebrune était dans l'actualité un peu spéciale il y a deux jours. C'est
justement,
pas toi qui...
Le maire du village de Roquebrune a fait un peu...
Parler de lui.
Voilà, exactement. Voilà.
Ouais. Donc Jérôme, tu pars comme mécano le 29 décembre sur l'Africa Race, c'est la 5e édition. Hein, cette course va traverser le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal. Donc cette année, tu es mécano sur deux roues, pas de quad comme l'année dernière.
Alors pas de quad, donc cette année ça sera que des motos, donc ça sera de la KTM, de la Yamaha et de la Honda.
Ah, donc t'auras pas mélanger les pièces. Hein,
tu vas devoir prendre une grosse trousse d'outillage, hein, parce que c'est pas les mêmes clés et c'est pas la même dimension peut-être.
Non, sinon, en général, ça va. De toute façon, on est bien équipé. Non. Donc, pour les KTM, ce sera les 690 rallye KTM. Mmh. Il y aura bien sûr donc les Honda, hein, les SCRF homologués et les WRF Yamaha. Donc, un peu mécanique en perspective.
Donc, j'ai lu qu'il y avait 11 étapes, c'est ça?
Voilà, il y a 11 étapes, donc c'est bel et bien, comme tu le disais Guy, le 29 décembre à Saint-Cyprien, les contrôles techniques et administratifs. Et donc, dès le lendemain, on traverse l'Espagne pour aller prendre le bateau qui nous emmènera sur le continent africain.
Concernant la Mauritanie, parce qu'il y a eu un problème de sécurité en Mauritanie en 2008, suite à l'assassinat de plusieurs touristes, hein, et qui avait annulé le Paris-Dakar, vous ne craignez rien ou alors, mais vous prenez quand même pas les grands axes, enfin les grands axes de l'ancien Dakar, non ?
De l'ancien Dakar, voilà exactement. En fait, on est vraiment bien plus côté ouest, hein, on reste côté océan. Effectivement, on n'emprunte plus du tout les mêmes tracés que le Dakar. Et au niveau sécurité, de toute façon, le Quai d'Orsay, si vraiment trouve qu'il y a un danger trop important, fera comme en 2008 pour le Dakar, hein, empêchera le départ. Hein. Et à savoir que vraiment sur tout le tracé, il y a l'armée de chaque pays qui est vraiment très 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 présente. C'est renforcé et on est vraiment très très encadré par l'armée mauritanienne surtout. Quoi. Donc bon, le risque n'est pas à zéro, mais il n'y a normalement pas trop de danger. Quoi.
Toi qui as fait le Dakar en Afrique et en Amérique, l'Africa Race, c'est un peu le rallye du pauvre ou... Parce que c'est déjà moins cher l'engagement, non?
Effectivement, la course l'Africa Race c'est quand même beaucoup moins cher que le Dakar. Et c'est vraiment on retrouve l'esprit des vieux Dakar. En Afrique, on repasse vraiment par des petits villages authentiques. C'est vraiment en plus la bonne ambiance. Mais au niveau tracé, au niveau population, on retrouve vraiment les vrais bons vieux Dakar comme dans le temps. Et bon, de là à dire que c'est une course du pauvre, quand même pas. Mais c'est quand même bien moins cher et c'est vraiment vraiment sympathique. J'invite vraiment ceux qui hésitent à faire un Africa Race. C'est vraiment vraiment une très très belle course qui d'ailleurs de chaque année, d'année en année, prend de l'ampleur. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé, mais il y a vraiment vraiment de plus en plus de concurrents. Et l'année dernière, on avait KTM officiel qui était sur la course. Ils ont d'ailleurs tourné un film en même temps. On voit vraiment d'année en année. Cette année, on a les camions russes qui seront là. Il y a vraiment de plus en plus de grand monde qui s'intéresse à l'Africa Race.
D'accord. Alors,
Jérôme, ça s'appelle en fait Africa Eco Race. Hein, parce que en fait, voilà. C'est une organisation éco-responsable. Explique-nous un petit peu cette appellation là, éco-responsable, c'est-à-dire qu'apparemment vous avez monté, il y a un gros sponsor qui aurait monté des panneaux solaires.
Oui, il y a des, ça aussi, donc il y a des panneaux solaires qui sont faits. Il y a surtout aussi qu'on amène pour la population, pour les écoles, du matériel scolaire. Et puis surtout, on met un grand point à traverser l'Afrique et à repartir chaque matin des bivouacs, en bien sûr en laissant tout très très propre, vraiment qu'il n'y ait pas de trace de notre passage, quoi. Et donc on aide la population avec différentes choses qui sont déposées pour les aider, quoi. Voilà.
Ouais. Bon, est-ce que c'est pas pour se donner bonne conscience quand même, peut-être, non?
Ah bon, il y a...
Parce que bon, voilà, on sait que c'est quand même de l'argent, hein, qui traverse des pays pauvres quand même, et puis voilà,
ouais,
quoi.
Oui, non, mais ça c'est incontestable. Bon, de là à dire ce genre.
Alors,
de...
Alors se donner éco-responsable avec le truc de la, enfin, l'idée de dire, ben voilà, c'est l'écologie.
Ouais, mais bon, pour chez eux, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Hein,
ouais, d'accord. Bon.
Hein, mais bon, on ne polémiquera pas là-dessus, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, et puis bon, chacun se fera son idée, quoi.
Ok.
Jérôme, une petite question. Les 5500 km qui sont tracés par Jean-Louis Schlesser, c'est bien ça?
Oui, tout à fait, oui. Oui, c'est l'organisateur, hein, de la course avec René Metz, bien sûr, le directeur de course.
Mais en 5 éditions, il gagne 5 fois, est-ce qu'il ne connaît pas des raccourcis?
Ah. Ouais, ça c'est la question de Guy, hein.
Non, je pense que vraiment pas, parce que bien sûr il n'y a pas de passe droit, hein, c'est interdit. Il a beau être patron, organisateur et vainqueur, non, je pense vraiment pas, parce que forcément il y aurait des plaintes qui seraient non, je ne pense pas, non. En plus il y a les hélicos, il y a tout, il y a vraiment, non, je pense que c'est réglo et on peut vraiment exclure ce genre d'idée, quoi.
Bien, mais écoute, Jérôme, on te souhaite une bonne piste.
Attends, Guy, j'ai une question, oui, encore, parce que je suis allé sur Internet, donc, et j'ai vu que bah, c'est convivial un petit peu l'Afrique Eco-Rice, parce qu'on peut venir, la famille peut venir éventuellement, enfin les familles ou les amis, hein, peuvent venir réveillonner le 30 décembre.
Le 30 décembre, oui.
Hein, on a vu des photos du buffet, tout ça. Donc, tu peux faire venir ta famille, tes enfants, ta femme. C'est ça. Explique-moi un petit peu comment ça se passe.
Bah, en fait, chaque année, le 31, ils font quand même un bon repas vraiment sympathique. Et effectivement, si tu as la possibilité de faire venir qui tu veux le soir du bivouac, oui. Ils peuvent participer avec toi au bivouac et à la soirée donc mécanique, parce que bon, il n'y a pas que réveillon, hein, les mécaniciens, moi aussi, on fait la mécanique, bien sûr, puisque c'est le premier soir, hein, c'est la première journée, le 31, c'est la première journée en Afrique.
Ça part le 29, hein, voilà.
Oui, oui, oui. Donc, et puis effectivement, tu peux faire venir ta famille et puis réveillonner et participer au bivouac, à la mécanique, à la nuit qui démarre en Afrique.
C'est génial. Et ben nous, tu peux peut-être nous inviter, nous.
Ah ben, si vous voulez.
Nous, mais... on veut bien venir.
Et on mange des sauterelles grillées, non?
Voilà. Écoutez, trouvez un chameau et bon. Rejoignez-nous.
Alors on prend l'avion et puis on fait le nouvel an et puis on repart. On assiste au départ, hein, le départ donc le lendemain, voilà. Et puis voilà, et puis on rentre.
Ouais.
Voilà, ça c'est un super réveillon, ça.
Ouais. Voilà. Ouais.
Ça c'est nouveau un peu dans les rallyes, un peu de faire venir comme ça les gens, faire participer.
Monde, ouais. Bah, puis ça fait aussi, ça fait parler et bien sûr ça.
Voilà, ça fait parler inciter, en plus.
Pour inciter et faire de futurs engagés.
Très bien.
Voilà. Jérôme, on aura tout à l'heure Eric Croquelois qui lui part sur le Dakar. Tu as été son mécanicien il y a quelques temps.
Oui. Sur le dernier Dakar en Afrique d'ailleurs, en 2007, effectivement, j'ai été bien sûr sur tout le rallye mécanicien pour Eric, que je connais très très bien. Et d'ailleurs, cette année-là, il a fini 21e, donc ça a été quand même une belle course. Il avait une 450 Yamaha. Et oui, effectivement, donc bah écoute, tu lui feras bien le bonjour de ma part, et puis je lui dis merde, hein.
Alors, vous partez tous les deux au soleil, mais pas dans le même continent, hein.
Oui, tout à fait. Alors bon, la course là-bas est un peu plus longue que nous, mais ouais, ça reste quand même deux belles aventures.
Ok, Jérôme, bon, bah, on te souhaite beaucoup ou pas du tout de mécanique, enfin je ne sais pas, mais toujours une bonne piste.
Merci beaucoup à vous, c'est gentil. À très bientôt.
Allez, à plus, salut.
Bientôt, bye. Salut. Au revoir.
thousand miles from nowhere, baby. Days and nights seem to blend. I'm traveling this old dusty road. It seems like it will never end, never end, no. Right now, babe, I'm a thousand miles from nowhere. I'm coming home to you. Still seeing those headlights from those passing cars, babe. That means I'm coming home.
Cette fois-ci, on repart au soleil, encore une fois, mais pur en Afrique. On part en Afrique, en Amérique du Sud.
Oui, voilà.
Avec
Eric Croquelois. Eric, bonjour.
Bonjour.
Ah.
On pensait que tu dois... Enfin, t'étais pas... Bon, pas grave.
Toujours ton labago, Eric.
Bah, écoute, ça se passe un petit peu, là. J'ai le droit à une infiltration cette semaine, là. Je sais pas ce que ça va donner, mais normalement, d'après ce qu'il dit, ça va se passer.
D'accord.
Enfin, il y a 80% d'amélioration. Maintenant, je me lève.
Ah bon, bah c'est déjà ça. Donc, le Dakar 5e édition qui va se dérouler en Amérique du Sud avec la traversée de l'Argentine, de la Bolivie et du Chili. Ça commencera le 5 janvier jusqu'au 18 janvier 2014. Les motos, voitures, camions sont déjà partis depuis fin novembre. Ils ont été embarqués au port du Havre le 2, 3, 4 janvier, vérification en Argentine, et 5 janvier, la première étape. Alors cette année, bon, il y a quand même Deux pilotes moto qui vont prendre le départ. Il y a Olivier Mutelet qui roule sur Yamaha, c'est son cinquième Dakar. Et toi, Eric, tu auras le numéro 100, toujours sur Yamaha, et tu es à ton 11e Dakar, c'est bien ça ?
Ouais, c'est ça.
Et tu as souvent, au niveau du classement, tourné autour de la 20e place. Enfin, la première année, 2001, tu étais 33e. 2004 et 2006, 21e. 2007, 22e. Et 2009, 29e. Et aussi quelques casses, enfin, quelques abandons sur le Dakar. Hein.
Ouais. Bah, j'ai fait l'infirmerie deux fois, et une fois j'ai cassé le moteur en 2013, où j'ai un mécano qui a un peu oublié de me mettre le joint qu'il fallait et j'ai perdu toute l'huile. Enfin, j'ai pas abandonné sur physique, donc c'est déjà un gros point. J'ai fini la dernière étape en hélicoptère, puisqu'ils sont venus me chercher et j'ai fini l'étape. Et j'ai vu des choses extraordinaires, notamment quand on voit les camions rouler à des vitesses folles, c'est impressionnant.
Et le mécano qui t'a oublié de changer, c'était pas Jérôme Elena, non ? Parce qu'on vient de l'avoir au téléphone, qui te salue non, d'ailleurs. Non.
Ouais, Jérôme Elena, il m'avait fait ma moto une année, là. On a de bons souvenirs. Non, c'était pas lui, c'était un petit jeune, je l'ai enterré sur place.
Toi qui as fait l'Afrique et l'Amérique, quelle est la différence sur les deux épreuves, sur deux continents différents ?
L'Afrique, c'est magique. L'Afrique, j'ai toujours aimé ça, puisque j'y habite un moment. Mais l'Afrique, c'est pas du tout la même chose. En Amérique du Sud, c'est comme si on roulait en Espagne. Les gens sont des fous de sport mécanique. En Afrique, ils découvrent, ils ne connaissent rien, ils n'ont rien. Et là-bas, donc, c'est plutôt... L'Afrique, c'était des longues étapes avec des terrains très durs. Derrière, il y avait 200 km pour se reposer de pistes plates. Tandis que là, maintenant, en Amérique du Sud, c'est quand même vachement concentré. Les étapes sont moins longues. Mais par contre, c'est dur du premier kilomètre jusqu'au dernier, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de repos possible. Il n'y a plus d'étape où on a juste l'accélérer et poser son cul sur la selle. C'est tout. C'est fini, ça.
D'accord. Et surtout cette année, moto, voiture et camion ne prennent pas tous le même circuit.
Non, il y a deux étapes où nous on va en Bolivie et les voitures viennent pas. Alors c'est sans doute pour des histoires de chemin et de pistes très très étroites. Donc les camions ne peuvent pas passer, les voitures ne peuvent pas passer. Comme on monte d'école, et l'école des fois c'est dur à passer à quatre roues. Hein. Donc nous on va monter jusque là-haut et puis on les rejoindra un peu plus loin.
D'accord.
Alors oui, Eric, c'est pour des gens, pour nous hein, qui ne sont, on n'est jamais allé là-bas, hein, donc ça nous fait rêver, hein, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, c'est des pays. Il faudrait que tu nous expliques un peu comment c'est le paysage déjà. Enfin, je sais pas si vous avez le temps de regarder le paysage quand vous roulez déjà.
Oui, on regarde bien. De toute façon, on est quand même beaucoup en liaison. Hein. Les liaisons, c'est les trajets qui nous servent du départ du matin, du bivouac, jusqu'au départ de la spéciale. Donc des fois, on a 200-300 km à faire sans pouvoir dépasser les 100 km/h, puisqu'on est repris au GPS, on n'a pas le droit de dépasser une certaine limite, et ceux qui le dépassent, ils ont une amende.
Et puis il y a toujours ce fameux désert d'Atacama, là, où il y a un dénivelé sur le parcours hein, du Dakar de 4500 mètres.
Oui, et on va faire deux étapes en hauteur.
C'est quand tu es là-bas sur ce fameux désert d'Atacama, il va y avoir des petits problèmes de respiration parce que l'oxygène s'est raréfié et puis on n'est pas...
À 6000 quand on traverse la cardia des Andes, là oui, mais à 3005 on est vite habitué, c'est comme quand on va au ski, on n'est pas à l'agonie pendant une semaine.
Oui, bien sûr.
Il faut une heure ou deux, une fois qu'on boit beaucoup, il faut une heure ou deux pour s'habituer et puis après c'est bon. Mais c'est sûr que... nous, maintenant, avec les motos, c'est des injections, mais celles avec les carbures...
Oui, c'est ça le problème aussi, la mécanique. Les réglages sont différents après, quand on monte en altitude.
Non, parce que les motos sont injections, donc elles se règlent toutes seules.
D'accord.
Avec les carbures, c'est vrai qu'on avait une perte de puissance. Sur les clubs, maintenant, non. On a des motos qui marchent bien. Et puis de toute façon, comme ça va être une étape marathon, il va falloir pas taper dans la mécanique. Il va falloir économiser, puisqu'on va être deux jours sans... de l'ours en bas de Mécano.
Oui, et puis quand on regarde le parcours, il y a deux étapes marathon, là, c'est 800 ou 700 km à faire. C'est spectaculaire quand même pour des gens, pour les néophytes. Quand on voit ça un peu, c'est un peu impressionnant, quoi.
Mais moi, je ne suis pas néophyte, et des spéciales de 1000-1200 bornes, j'en ai fait pendant.
Non, mais toi, mais nous, on n'a pas l'habitude, on n'a jamais fait ça. Donc, quand on regarde ça, on se dit, il faut quand même avoir un peu de courage.
Bah, c'est pareil, Marseille tous les jours.
Voilà, c'est un Paris-Marseille tous les jours. Voilà.
Mais pas par
l'autoroute, sur des pistes.
Et au niveau assistance, au niveau alimentation, tu vas pas être déçu avec Hervé Gires qui vient avec une friterie sur le Dakar.
Nous, les voitures, on les voit pas beaucoup. Hein. Si je le vois une fois dans tout le rallye, c'est le bout du monde parce que les voitures arrivent déjà très tard. Elles partent très tard, elles arrivent très tard. Nous, quand ils arrivent, généralement, on est couché parce que nous, on part les premiers. Donc, comme on se lève à minuit et demi pour partir. En liaison, et on les voit pas, on se croise, ils arrivent, on part. Hein.
Donc en gros, c'est ça le fonctionnement, vous partez à minuit, c'est ça? Vous partez en une journée en fait sur le Dakar, c'est ça? Vous partez à minuit, c'est ça?
Bah, tout dépend de la spéciale du jour.
Ouais.
Mais généralement, quand vous avez 300-400 bornes de liaison le matin, bah, vous partez à minuit, 1h, 2h. Et puis vous faites, par exemple, le premier jour, il y a 629 de liaison et 180 km de spécial.
Oui.
Donc il va bien falloir les faire.
Bah oui.
En sachant que on compte, si c'est sur la route, une heure au 100, il y a déjà 7 heures. Donc pour prendre le départ à 8 heures, on va partir à 21 heures du matin.
D'accord. Bah, si vous faites des sacrées journées, ça, hein?
Ouais, ouais, bah, c'est des belles journées. Bah, et pourtant, ce n'est pas en grève.
Oui.
Au niveau des vainqueurs de l'année passée, tu mettrais qui cette année, vu que Cyril Després a changé de marque, KTM, Yamaha au lieu de KTM, et il y a Marc Coma qui est bon aussi un bon pilote, et puis 4 victoires quand même sur le Dakar. Tu mettrais qui, toi, vainqueur de l'édition 2014, hormis toi peut-être?
Ouais, non, moi j'y vais pas, c'est fini, là, moi j'y vais vraiment pour finir, j'y vais vraiment pour m'amuser. Puis j'y vais pour prendre un bon coup de soleil.
Ah bah oui, c'est ça.
Et en janvier, parce qu'en France, on se fait chier, il fait tellement froid.
Et dis donc,
on va venir avec toi. Hein.
Ouais, bah,
on va faire l'assistance.
Dis donc, j'ai épluché, tu sais, le règlement du Dakar, et j'ai vu que dans le pack, enfin dans l'engagement, des packs ont pris le cercueil.
Non, je m'en fous.
Ah, tu t'en fous.
Je me ferai incinérer.
Voilà. Ah, ben ouais. Là-bas au soleil.
Moi, je pars en assistance avec, je sais pas si vous avez vu, Hugo Payen, numéro 69, et il est sponsorisé par Marc Dorcel.
Ouais.
Bon, donc c'est déjà une.
On va
essayer de rentrer rapidement. Parce que l'actrice sera là sur tout le rallye.
Vous allez tourner un film alors?
Bah, il nous reste encore quelques forces.
De force, oui.
Sinon, je me mettrai derrière la caméra. Ah, voilà.
D'accord.
Bien, Eric, eh ben, écoute, on te souhaite beaucoup de chance. Et
de mettre en forme avant, pas, parce qu'il te reste 15 jours là. Hein.
Oui, voilà.
Enfin, 3 semaines.
Hein, Si tu veux une masseuse, nous, on en connaît une. Hein.
Non, mais là, j'ai pas besoin de ma soeur.
Dommage pour toi. Hein.
Ah, non, mais sinon, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais, on peut faire.
On te l'envoie.
Ouais, on te l'envoie. Hein.
Et je pars avec toi, si tu
veux. Ah, c'est surtout ça, elle veut partir avec toi. Au soleil.
Bon, on va sur place.
Ok, Eric.
Voilà.
On te suivra sur le net, tes classements, et voilà.
Ok.
Ok, on te remercie. Salut.
Allez, au revoir. Merci.
Au revoir.
Got your goods from your mama too.
Bon, Guy, nous, on n'a pas les moyens d'aller ni en Afrique, ni en Argentine, au Chili, Bolivie. Donc, on va rester là, ici, dans la région. Mais mardi soir, on va aller voir le spectacle au stade Pierre Mauroy, qui est le...
Le Nitro Circus
Live. C'est une première dans la région.
Pour une première dans la région. Adieu Paris, vive le Nord. Maxime, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. Est-ce que, voilà... c'est le 10, mardi 10 décembre, pardon, à 19h30, le Nitro Circus Live au stade Pierre Mauroy. Alors, ici, les nordistes, les ch'tis, sont un peu étonnés que on fait escale ici dans le Nord. Souvent, c'est dans la capitale, Bercy, Stade de France. Pourquoi Lille?
Bah écoutez, faut pas être étonné, hein. Vous avez une belle région et puis vous avez un beau stade qui
prête parfaitement
justement au show, hein, ce spectacle, Nitro Circus. Donc voilà, vous avez un stade couvert.
Ah bah oui, c'est vrai, c'est couvert.
Un superbe show. Ouais, ça c'était important. Et voilà.
Mais il est couvert, mais il est pas chauffé, hein, parce qu'il y a Dépêche Mode. Ils se sont dépêchés de partir d'ailleurs.
Non mais ça, vous inquiétez pas, on va venir. Et puis apparemment, le public du Nord est assez chaud.
Ah oui, c'est vrai, ça va. Ça va monter, le thermomètre va monter. Donc grande première en France, parce que bon, le Nitro Circus avait déjà fait une tournée européenne l'année dernière, et cette année une première en France, hein, c'est bien ça.
Exactement. Ouais, c'est un show qui a déjà tourné en Australie, en Nouvelle-Zélande, qui est arrivé en Europe l'année passée, et puis cette saison, bien il fallait faire une étape en France, et vous avez de la chance, ça va être l'unique étape, et c'est à Lille. Donc faut vraiment profiter de l'occasion, parce qu'il y aura vraiment les meilleurs riders de la planète dans tous les sports extrêmes confondus.
Comme par exemple Travis Pastrana. Mais est-ce que c'est pas lui qui a mis en place ce Nitro Circus, ou il est acteur de ce...
Ben, en fait, Travis Pastrana, c'est le créateur, hein, de Nitro Circus. C'est lui qui a eu cette idée-là. Puis c'est la légende des sports extrêmes. C'est un garçon qui a fait du motocross, qui a été champion des États-Unis, qui a fait du freestyle, qui a gagné les plus grosses compétitions mondiales. Et puis ensuite, il a même fait de la voiture. Il était passé au NASCAR l'année passée. Et puis là, cette saison, il retrouve ses premiers amours. Il revient à la moto. Et à Lille, il sera pas là seulement en spectateur, Travis Pastrana. Il va être là sur la moto et on va pouvoir le voir rider comme il le faisait il y a quelques années. Donc ça, c'est vraiment un grand, grand plaisir de le retrouver. Et puis il ramène surtout 30 de ses potes. Il y a 30 riders qui seront à Lille. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est assez unique dans ce show-là, c'est que c'est un show multidisciplinaire. Alors on va voir du freestyle motocross. On aura également du BMX, du skateboard et puis plein d'engins assez fous. Ça, vous le découvrirez à Lille. Je vais pouvoir vous en dire quelques-uns, mais ça va être assez fou.
D'accord. Et pour revenir à Travis Pastrana, j'ai vu sur son blog, il y a quand même eu 60 fractures. Il n'est pas...
Effectivement, bah oui, c'est pas un sport sans risque, mais c'est également un garçon qui aime prendre des risques. Vous savez, les garçons qu'on va voir mardi soir, le 10 décembre, à Lille, c'est des garçons qui aiment repousser les limites. Donc comme Travis Pastrana, oui, forcément, quelquefois on peut voir des chutes, mais maintenant ça reste des athlètes, hein, très préparés. Ce qu'ils vont faire à Lille, ils s'y sont entraînés depuis des semaines, depuis des mois.
Ah ouais, c'est bien calculé.
Ils ont une folie comme ça. Hein. C'est vraiment des vrais athlètes que l'on va voir. Et c'est ça l'intérêt également à Lille, c'est que ils sont tous quasiment numéro un dans leur sport. On aura même le Français Tom Pagès, qui est l'actuel numéro un du freestyle motocross. Et ces garçons-là vont tenter leur meilleure figure. Et je peux vous dire que depuis le début des shows en Europe cette année, quasiment à chaque étape, on a une première mondiale. Parce que imaginez, vous mettez 30 riders, chacun les tops dans leur sport, et la veille, il y en a un qui passe une première mondiale. Je peux vous dire que le lendemain, les autres, ils ont envie de faire soit la même, soit envie de faire encore plus fort. Donc je pense qu'à Lille, là, on arrive sur la fin du show, vous allez vraiment avoir le top des figures dans toutes les disciplines.
Tu parlais de Tom Pagès, mais lui, il ne fait pas partie du groupe Nitro Circus, c'est un plus.
Alors ça va être un plus, effectivement. Le groupe Nitro Circus est né aux États-Unis, hein. Et puis Tom Pagès, là, est la nouvelle star, et Travis Pastrana, justement, lui a donné une invitation avec un grand sourire pour lui dire, tu sais, t'es vraiment le bienvenu dans notre troupe, t'es vraiment le bienvenu dans le groupe, et on serait très heureux de t'avoir avec nous à Lille. Donc Tom a répondu avec lui aussi un grand sourire, parce que son idole, quand il a commencé, c'était Trévis Pastrana. Donc, c'est vraiment très sympa de les retrouver tous les deux ensemble sur le même parc de freestyle. Donc, on aura bien Tom Pagès, exceptionnellement à Lille pour le Nitro Circus, avec son frère Charles Pagès, qui lui aussi fait un retour dans le freestyle. Donc, voilà nos deux Français qui seront présents pour le show de Nitro Circus à Lille.
Donc, le show sera chaud.
Effectivement, ça va être très très chaud, vous le verrez. C'est 2h30 de show au total, 2h30 de spectacle. Et ce qu'il faut rappeler également, c'est que c'est pas une compétition, vous savez. Ça peut convenir à tout le monde, du plus jeune au plus âgé, et également pour le plus confirmé, le fan par exemple de freestyle, de BMX, va être content puisqu'il va voir ses stars. Et puis celui qui ne s'y connaît pas forcément, eh bien, lui aussi va trouver son compte parce qu'il va voir le meilleur de ce sport-là sans avoir à comprendre justement toutes les règles d'une compétition, toutes les figures. Ils ont vraiment construit ce spectacle pour que tout le monde puisse le comprendre. Et celui qui ne s'y connaît pas forcément va au moins, en tout cas je peux vous l'assurer, être impressionné par ce qu'il va voir.
Ok. Eh bien Maxime, toi tu seras le speaker de cette épreuve. Alors oui. On te donne rendez-vous le mardi 10 décembre à 19h30. Au stade Pierre Mauroy et voilà, puis on te remercie de ton commentaire et de
tous, hein, parce qu'il reste seulement quelques petites places, il y en a encore sur certains sites, la Fnac en vend encore, donc n'hésitez pas à aller prendre des petites places. Et puis je vous parlais d'engin fou, vous allez voir des folies, parce que si la moto, le BMX, le skate vous connaissez, je pense qu'il y en a très peu d'entre vous qui ont déjà vu une voiture de Barbie sauter 20 mètres de long, une glacière sauter 20 mètres de long. Il y a même des mecs qui vont sauter de leur canapé.
Bah vous allez détruire la pelouse du stade.
Non, c'est tout
parce
ça.
Parce que comment vous allez faire c'est...
Ah non, mais il y a toute une structure hein, qui est mise en place. C'est protégé, hein, bien sûr.
Ah d'accord, oui. Tout est protégé. Ah, parce que c'est...
Oui, bah c'est important, hein. On va redonner la pelouse aux footballeurs juste après.
Ouais, parce qu'il ne faut pas déconner, hein. Vous savez que Lille, il est deuxième au classement, hein. Alors il ne faut pas détruire la pelouse. Hein.
Non, mais on est à une belle ambiance de sportifs, ouais. Et chacun a sa place, je pense, dans ce grand stade de Lille.
Ok Maxime, eh ben, rendez-vous mardi là-bas au stade. Salut.
Je vous attends tous, avec plaisir.
Ok, merci.
Down to the crossroads.
Guy, l'actu tout terrain.
Fini.
C'est fini. Bon, bah, je te propose de partir à Versailles, porte de Versailles, à Paris, avec Nico. On va se balader dans les allées du salon. Hein. Tu sais que c'était cette semaine, hein, ça va se terminer ce soir à 19h. Nico, on commence par quoi Quand on arrive dans le salon, la porte, c'est.
On a réussi à y aller parce que c'était la nuit noire.
On a eu peur. Hein.
C'était la nuit noire, on nous a annoncé des embouteillages et du coup, on disait, c'est compliqué.
Et alors
on a eu la route pour nous tout seuls.
On avait l'impression qu'on était seul au monde.
On avait l'impression de rouler un dimanche.
Oui.
Ouais, alors qu'on était de lundi matin, il n'y a personne.
Mais même le dimanche, il y a du monde pourtant.
On a de la chance. Et donc, on est arrivé dans ce salon. Donc, l'organisation a changé. Hein, depuis 2 ans, en 2011, la fois dernière, c'est une nouvelle organisation qui propose le salon. Ils ont choisi des bâtiments moins chers, plus petits.
Alors, 4 halls.
Du coup, il y en a 4. Mmh. Alors qu'avant, il y avait celui qui enjambait le périph'. Là,
ouais, hein, ouais. Il y avait deux étages en plus. Mmh.
Donc là, c'est des bâtiments moins prestigieux, moins chers. Mmh. Donc, ce souci de faire un salon moins cher, on le ressent.
Et une semaine au lieu de deux.
Une semaine au lieu de deux, un seul week-end au lieu de deux.
Ouais.
Donc, puisque en fait, il n'y a que ce week-end.
Oui, ça commence lundi jusqu'au dimanche, donc voilà. Un seul week-end.
Et ce soir, ils finissent relativement tôt parce qu'il faut démonter.
Hein. Oui.
Donc c'est vrai que c'est un plus petit salon qu'avant. Il a le mérite d'exister et de perdurer, de s'installer dans le temps, puisque là, c'était la deuxième édition dans ces conditions-là. Alors, avec
ce qui fait que dans la presse, c'est pour ça, il y a des absences, genre, mettons, Harley Davidson qui n'était pas présent, voilà. Et d'autres, et qui disent que finalement, ça devient un salon régional.
Oui, il faut pas exagérer. Il y a toujours les constructeurs, on sent que c'est important pour eux quand même le marché français, puisqu'il y a toujours des nouveautés qui sont dévoilées au salon de Paris. Donc tant qu'il y a ça, ça veut dire que ça représente encore un enjeu.
Bah, le gros problème, c'est qu'il y avait le salon de Milan juste avant.
Oui, mais le salon de Milan, c'est le grand salon maître, puisqu'il y a tous les constructeurs italiens qui, eux, sont très dynamiques et ils veulent proposer leurs nouveautés et les montrer. Donc ça, c'est le premier salon. C'est vrai que le premier salon a l'avantage. Donc là, cette tendance un petit peu, à faire un salon moins cher, on la ressent aussi chez les constructeurs, puisque quand même, c'est la crise. Et on sent un souci chez les constructeurs de proposer des motos amusantes, avec du caractère, à un prix plus étudié. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs solutions. D'abord, on réduit la cylindrée et on réduit le nombre de cylindres. C'est ce qu'a fait Yamaha avec sa nouvelle MT-07. Donc, c'est un bicylindre de 700 cm3 qui est un petit peu extrapolé de ce qu'ils avaient fait déjà récemment, la MT-09, là, qui est un 3 cylindres. Un petit peu la copie Triumph. Enfin, Triumph, ça marche très fort leur moteur. Il y a du caractère, il y a des motos sympas. Donc, ils reprennent le flambeau. Hein. Dans le temps, on copiait les Japonais. Maintenant, ils copient un petit peu les Européens. donc, ils ont fait ce modèle-là qui risque d'être un roadster avec un tarif qui sera accessible.
Et puis, c'est à moins de 6000 euros. Parce qu'effectivement, on a regardé. Voilà. Alors, il y a deux tendances. Hein. Il y a tendance pas chère. Hein,
Il y a
des tendances très chères.
Oui.
Alors, quand on voit le prix des bagnoles, tu te dis, mais attends, une moto, tu te rends compte, à 16, 17 000. Alors que tu as une voiture avec toutes les options à 12 000.
C'est sûr.
Avec la crise, il y a un petit problème chez les motards et chez les concessionnaires surtout aussi.
Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce souci de faire une gamme en fait, à prix plus étudié. KTM présentait un mono sportif. C'est un mono, ça coûte moins cher à produire qu'un multicylindre. La RC390, alors qui, elle, pour être encore moins chère, elle est fabriquée en Inde, en fait. Hein. KTM a passé un accord avec Bajaj, un constructeur indien, pour construire ses motos 125, 200, 390 en Inde. Donc ça sera les modèles en fait d'entrée de gamme sont produits là-bas.
On revient un petit peu dans le stand précédent, là, c'était chez Yamaha.
Oui.
La réapparition du 400 SR.
Alors ça c'est une autre tendance, effectivement, il y a une tendance rétro.
Oui, mais quand même, tout simplement parce qu'on a mis l'injection, parce qu'il faut passer les normes,
voilà.
Euro 5 et Euro 6. Là.
Ouais.
Mais alors bon, quand même à 6 000 euros,
une
machine qui est sortie il y a 30 ans.
Exactement.
Faut pas exagérer quand même.
Ouais, c'est un peu dur à avaler. D'autant plus qu'en 400.
En 400.
Ouais, voilà, donc c'est un petit peu léger. Hein. C'est vrai que bon, c'est un bel objet, mais voilà tout. Quoi. Et puis à ce prix-là, autant trouver une belle d'occasion. Hein.
Oui.
En 500.
Et en carbu.
Ouais, voilà. Avec un peu plus de caractère. Ouais. Oui, donc, et puis, bon, Harley n'était pas présent, mais Harley a sorti lui aussi une des 750. Donc, il y a un souci quand même de proposer des motos un peu moins chères.
Alors, Harley qui sort un 750, c'est étonnant, parce que c'est jamais. C'est une marque qui a toujours été dans.
Sur le haut de gamme.
Haut de gamme, mis à part le 883. Hein, mais là, c'est un moteur, donc, apparemment, boîte séparée. Et donc, un gros, le gros moteur.
Et pareil, ça sera produit donc, en Inde. Donc, c'est le pays qui propose des. Qui a encore un tissu de mécanique moto qui est capable de produire moins cher. Et puis effectivement, il y a une vague rétro également, donc le 400SR chez Yamaha, le Honda qui peaufine un petit peu sa CB1100 qui est censé rappeler un petit peu les motos des années 80. Peugeot qui avait un Django, donc un scooter mais avec des lignes rétro et colorées, sympa. Et puis, par exemple, Royal Enfield, qui, elle, est une vraie ancienne neuve.
Royal Enfield, ça s'appelle la
Continental.
Sport, la Continental.
Continental GT.
Donc, une version donc, sportive. Avec
un café racer.
Café racer. Qui est pas trop mal. Bon, évidemment, le prix, ça a changé aussi.
C'était
pas très cher quand même, Royal Enfield, il y a quelques années. Mais bon, ils se sont mis à l'injection. Il faut passer les normes. Apparemment, au niveau construction, il y a la métrologie. Donc, il faut mesurer les pièces. Il y a un contrôle continu. Continue durant toute la construction de la machine.
En Europe, on a le droit.
Et donc
à des
forcément, tout ça, ça coûte et forcément le prix. Mais bon, c'est vrai que c'est pas trop mal quand même.
C'est sympathique. C'est un beau moteur. C'est sympathique. Ouais, c'est une moto à l'ancienne, mais neuve.
Mais neuve.
Ouais. Mmh. Et puis dernière tendance qui commence à envahir le salon et là, on a plus de mal à s'y retrouver, c'est l'électrique.
Oui, alors ça, c'est le gros problème.
quand même. Parce que on voit pas un gars arriver avec un truc électrique et dire je suis un motard.
J'ai du mal à avaler le truc quand même, l'électricité.
D'autant plus que c'est quand même des engins. Il n'y a pas un seul engin électrique pour l'instant qui est capable de marcher plus de 2 heures sans recharger.
Donc, là, on se demande si tu veux partir aux LF, tu veux partir aux 1000 vaches, là, 700 bornes à faire.
C'est compliqué, faut la
sur
semaine.
Sur un week-end.
Faut la semaine.
Le temps de recharge.
Voilà.
C'est pas fait, quoi.
Et deuxième chose, c'est les batteries, elles sont très lourdes. Oui. Elles coûtent très cher. Le lithium, c'est un métal rare qu'il y a peu sur la planète. Oui. Donc, ça coûte très cher. Donc, ils proposent de louer la batterie. C'est comme si on achetait toute la consommation d'essence de la ville de la moto. C'est pas possible.
La tendance, c'est ça. T'achètes la machine, mais t'es pas obligé d'acheter les batteries. Il faut savoir que les batteries, ça coûte pratiquement 50%.
Ça coûte plus cher que ça coûte plus cher.
Donc, tu peux acheter la machine, mais t'as pas les batteries. Donc, là, après, tu peux pas rouler.
Tu peux regarder, tu peux monter dessus,
mais bon, donc il faut que tu achètes les batteries.
Voilà.
Mais tu n'es pas obligé de les acheter, tu peux les louer.
Voilà.
On peut louer les batteries.
Voilà.
Et
c'est décalant.
Comme si tu achètes une moto sans le moteur ou la voiture sans le moteur, tu te dis le moteur, je vais me l'acheter dans 2 ans, on verra bien. Quoi. Voilà.
Et une fois que tu as tout ça, tu as le droit de rouler pendant 2 heures à des vitesses. Je pense que l'accélération doit être sympa, mais par contre, la vitesse, dès que tu roules à une certaine vitesse, la batterie se décharge très très vite. Donc t'es limité avec le stress parce que quand même on peut pas faire le plein en 5 minutes donc t'as toujours le stress. T'as le droit à 2 heures. S'il fait froid, comment ça marche? Parce que du lithium finalement ça marche pas. Il y a des batteries au lithium qui existent déjà pour les motos, elles démarrent pas. Il fait moins de 5 degrés, c'est terminé. Donc là, comment ça roule ce machin là?
Il y a beaucoup de paramètres qui sont un peu dans le flou. Parce qu'on nous dit pas qu'on roule avec le phare allumé, tu roules la nuit.
C'est obligatoire le phare allumé.
Attends, c'est obligatoire pour les motos. Donc tu roules toujours avec le phare.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a un phare, ça te bouffe la batterie.
Quand même. Alors, ils mettent des LED et tout ça pour faire allusion, mais quand même.
Voilà.
Alors, et pour y avait une nouveauté française en électrique, c'était Vauxhall.
Alors la Vauxhall, en fait, j'étais certain que t'allais en arriver là, Vauxhall, oui.
Ouais. C'est une inauguration en grande pompe, donc on est arrivé au salon.
C'était quelque chose.
Il y avait une housse sur un objet, on savait pas ce que c'était, mais on voyait un stand énorme de Vauxhall.
Ouais.
Alors moi, ça m'a fait un petit peu mal à l'estomac parce que j'ai repensé à tous les salariés de Vauxhall qui avaient été largués comme ça, alors qu'ils avaient des belles motos à produire. Et puis là, on se retrouve sur un stand luxueux. Avec un drap au-dessus, et puis en grande pompe, donc il y avait de la musique, il y avait du beau monde.
Ouais.
On lève le voile et on voit apparaître un objet non identifié.
Oui, Nico, c'est là où on t'entend sur la caméra, là, et tout le monde applaudit, toi t'es le seul à dire « mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?»
Ouais, Donc,
On n'a pas été jusque-là, Laurent, quand même. Moi, je pense que on n'est pas prêt de revoir Vauxhall sur les routes.
C'est pas une moto. Hein, c'est pas une moto. Déjà, c'est tout juste si elle tient pas debout toute seule parce qu'elle frotte.
C'est vrai que bon, il faut dire aussi, ben ça vient de qui? Ça vient de Venturi. Venturi, voilà. C'est un milliardaire, c'est ça, monégasque,
à
qui ça appartient cette marque.
Voilà.
Il se fait plaisir avec des trucs comme ça, je sais pas quoi.
Il fait parler de lui, je pense. Il fait des voitures électriques, je crois, Venturi maintenant.
Oui, mais il fait des grosses voitures aussi.
Donc il est dans l'électrique, le gars.
Et donc apparemment il a racheté le nom Vauxhall pour 1 euro, hein, symbolique, je crois. Ça valait plus rien.
Oui, voilà, ça valait. Il a acheté un nom, en fait.
Il a acheté le nom.
Ouais. Et puis il a embauché Sacha Lalaki, qui est donc un designer qui est français mais qui a son bureau d'études au Luxembourg. Ça me fait marrer, c'est une moto française. Mais c'est vrai, t'as un gars, c'est un monégasque.
Ça cause des impôts, je pense.
Ouais, d'accord.
C'est le truc.
Bon. Et après, ils veulent nous refourguer ce truc-là. J'ai eu du mal.
Mais je pense qu'on n'est pas prêt de l'avoir.
J'ai trouvé ça une immense farce. Si
on les verra à Monaco, peut-être. Mais...
Il n'y avait même pas une belle petite nana sur ça.
Il y avait une nana. Elle était tatouée de la tête aux pieds. Voilà. Et elle n'avait pas de cheveux, comme moi.
Une Australienne.
Et c'était décapant aussi, nana. C'était comme quoi. Mais c'est de la com, tout ça. C'est du spectacle.
Ah, c'est du spectacle. Ça, c'était vrai.
Mais c'est pas de la moto.
Non, c'est pas de la moto, ça. Voilà, donc on continue un peu parce qu'il nous reste 4 minutes,
alors,
même pas 3 minutes, il fait les signes, Laurent.
Voilà, pour aller très vite, les nouveautés intéressantes. Bon, on a vu chez BMW la 9T, hein, ouais. Donc on se dit, tiens, ils ont fait une belle moto pour une fois chez BMW, sympa. Et on a vu le prix à côté, 15 000 euros. Bon, d'accord.
C'est un modèle dépouillé, une fourche traditionnelle, de qualité quand même. Hein. Et puis,
c'est beau,
mais alors, il faut avoir la selle. Si on prend l'exemple, l'arrière de la selle pour la passagère.
Très étroit. Hein.
Ouais. Voilà, ouais. Vous avez compris, quoi. Voilà.
Après, il y a la Super Duke, un épouvantail. Et puis, il y avait une Honda Panigale. Il y avait la Ducati Panigale, super légère, 200 chevaux, 160 kilos, 65 000 euros.
Ça c'est dit. Voilà. Bon, Ducati, il n'y avait pas grand chose en fait.
Hein. Et nouveau Monster, 15 000 euros.
Oui, les nouveaux Monster.
Moteur à flotte.
Ouais, mais 15 000, alors c'est ce qu'on disait un peu, 15 000, il faut les sortir quand même.
15 000 euros un Monster.
C'est pour une moto quand même, mais là, il va falloir revoir un peu les prix quand même.
Ouais. Donc, mais bon, c'est encore possible d'y aller, mais il faut faire vite. Hein,
et puis on termine avec, il y avait quand même cette fameuse marque Indian.
Voilà, Indian est arrivée, voilà.
Hein, 3 ou 4 modèles, je crois. Indian.
Supérieur à 20 000 euros. Mais
alors, ça comme 22 jusqu'à 26 000, voilà. Et puis.
On fait revivre le passé d'Indian.
C'était
beau.
Encore à la limite, ça, on va dire, c'est une belle machine quand même. On va dire que on n'est pas déçu quand on regarde ces machines-là. On regarde, c'est beau quoi.
Ouais.
Voilà. Bon, Laurent nous a fait signe que c'est fini, il faut couper.
C'est fini. Je le dis aussi.
C'est fini. Merci Nico pour cette balade. Donc c'était ce salon 2013, salon de la moto, porte de Versailles, c'est fini. Il reste encore quelques heures. Je sais pas, c'est 18, 19 heures.
Oui.
Voilà, merci Guy pour le désert, pour le soleil as donné aujourd'hui.
Il y aura du soleil mardi.
Oui, mardi, et puis le stade Pierre-Mauroy pour le Patronas. Merci Christine.
Écoutez toutes nos manifestations sur k1c.fr. Voilà.
Et puis vous retrouvez les photos du salon sur k1c.fr sur le forum, les photos que nous avons, que surtout Nico a faites donc l'année dernière, sur le salon. Allez voir, hein. Ça vaut le coup.
Ça se demandait si c'est pas un salon.
Laurent Fessine, c'est fini.
Bon dimanche à tous.
Au revoir, passez un bon dimanche.